la pensée qu'on avait vue, je sais pas, qui était là le premier vendredi où je suis intervenu. Mardi, je vais trop vite là. Mardi, vous vous rappelez, on avait vu un texte et je vous avais dit qu'à chaque fois qu'on allait se retrouver le mardi, on allait voir une pensée à chaque fois. Le texte, il se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 17. C'est un verset de trois mots quand l'apôtre Paul dit « Priez sans cesse ». Et tout à l'heure, il y a eu plein de clins d'œil de la part du Seigneur. Et je me dis « Bon, mais ça va, je pense qu'on est encore dans la pensée avec l'Église ». Et on avait vu les effets de la prière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et 1 Thessaloniciens 5, 17, ça c'est le verset de base. Et ensuite, on avait lu à partir du verset 11. Et on s'était arrêté sur l'exhortation. Ça va? Ça revient? Allez, on va lire, juste pour voir avec vous que la prière produit quelque chose en nous. La prière doit avoir un effet en nous. Si la prière n'a pas de elle ne produit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va voir ensemble ce que produit la prière. Prier sans cesse. On va voir si c'est possible tout à l'heure. On va voir si vous vous souvenez un petit peu. Ça fait un peu loin. Mais on va lire à partir du verset 11. On va lire, et je vais juste vous donner là ce que produit la prière. À chaque fois qu'on se retrouvera, et bien on s'arrêtera sur un point. On avait vu donc à partir du verset 11, quand l'apôtre Paul dit ceci, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. On s'est arrêté sur l'exhortation. Quand on prie, ce qui se passe dans notre vie, c'est qu'on peut aller exhorter les autres, c'est qu'on peut aller encourager les autres. Voilà ce que produit la prière. Elle produit en nous l'exhortation, l'encouragement. Amen. Si ça ne produit pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Si je sors de la prière, si je suis un homme de prière, si je suis une femme de prière, la prière produit en moi l'encouragement. Je vais aller vers les autres et je vais les encourager. Amen. C'est ce qu'elle produit, la prière. On va un peu plus loin. Édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. On va s'arrêter tout à l'heure sur ce deuxième point où il est question de l'édification. Nous vous prions aussi, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ça aussi, la prière, elle produit en nous la considération et le respect. Non seulement, là, il est question des serviteurs de Dieu, mais il est question du respect envers tout le monde, hein, envers les uns et envers les autres. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Ça nous touche un peu, hein. On est dans le service, voilà. Si Paul dit aux Thessaloniciens, ayez un peu pour eux beaucoup d'affection pour les serviteurs de Dieu. Amen, mais pas d'amen, hein. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. C'est ce que produit encore la prière, elle produit la paix. Nous vous prions aussi, et nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans des ordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Là, il y a quatre pensées, là. Hein. La prière, elle nous avertit. Dieu nous parle. Et quand on se tient dans la prière, Dieu nous montre s'il y a du désordre chez quelqu'un. Des fois, rien qu'en apportant la parole de Dieu, eh bien on se rend compte que certains vont être touchés, vont être interpellés parce que Dieu nous montre tout simplement hein, s'il y a du désordre. Et je vous rappelle que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Consoler. Si je suis un homme de prière, je vais consoler les autres. Hein. Si je suis une femme de prière, je vais consoler les autres. Pourquoi? Parce qu'on est animé de l'esprit consolateur. Et si je sors de la prière, je suis cet homme qui se tient devant le Seigneur, je vais aller vers mon frère, je vais aller même vers ceux que je connais pas, je vais leur apporter une parole de consolation. Ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Ah là là. Mais Seigneur, ça fait 40 ans que je suis là et j'ai du mal à le supporter, oui. Mais si tu pries, tu vas supporter. Si tu pries pas, tu supportes plus personne. C'est pas compliqué avec Dieu, hein. Usez de patience envers tous. Et on a besoin aussi de... Qui c'est qui a besoin de patience ici? Levez la main. Moi, je lève les deux mains. Mais je sais que quand je passe du temps devant Dieu, Dieu me donne sa patience. Amen. C'est certain, ça. C'est certain. Prenez garde à que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Et oui, eh bien, quand je passe du temps devant le Seigneur, il me donne cette sérénité, il me donne cette joie. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et là aussi, il y a toute une chaîne, là. N'éteignez pas l'esprit. Qu'est-ce qui peut éteindre l'esprit? Le fait de ne pas prier. Si je prie pas, j'éteins l'esprit. C'est pas compliqué, hein. Si je prie, je ne mépriserai pas les prophéties. Si je prie, je vais examiner toutes choses et je vais retenir ce qui est bon et je vais m'abstenir de toute espèce de mal. Voilà ce que produit, on le verra au fil des mardis, au fil des réunions de prière, ce que produit la prière. Ça va? J'ai à peine posé la base là, hein, d'accord? Juste un petit rappel sur l'exhortation. Exhorter, vous rappelez ce que ça veut dire? Tout le monde le sait. On prend le dictionnaire, on sait que exhorter, ça veut dire encourager. Encourager, je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui va aller vers son frère, vers sa sœur, et qui va l'encourager, qui va le tirer vers le haut. Amen. C'est ce que produit, la Bible nous enseigne à produire, c'est Paul qui dira « produisez du fruit digne de la repentance ». Et c'est Jésus qui dira dans Jean chapitre 15, dans les premiers versets, quand il parle de la parabole, il dira « Mon père, c'est le vigneron, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, et tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit ou qui produit du fruit, qu'est-ce qu'il fait ? Il le taille, hein ? Voilà, il émonde pour qu'il porte encore, pour qu'il produise encore plus de fruits. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui va produire. Et ce qui va nous amener à produire, c'est la prière. Amen. C'est la base, vous savez, c'est la base de tout, la prière. C'est la base de tout. Elle modifie notre langage, elle modifie notre vision, elle modifie notre être. Amen. Intérieur et extérieur. Elle modifie tout, la prière. Elle sanctifie. Gloire à Dieu. Et on a donc exhorté, j'avais cité parmi les exemples, un exemple type de l'exhortation. Un qui s'appelle le fils d'exhortation, c'est Barnabas, Actes chapitre 4, verset 36. Barnabas, surnommé par les apôtres, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils d'exhortation. Et je regardais un petit peu toute la biographie de cet homme quand on regarde, mais c'est lui, il a une biographie, Barnabas, il va exhorter. C'est lui qui va prendre l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9, quand l'apôtre Paul, Saul de Tarse, s'est converti. Et quand on regarde le verset 26, Actes 9, 26, quand il est dit que Barnabas a pris Saul de Tarse et l'a amené vers les disciples. Parce que les disciples, ils avaient peur. Ils étaient dans la crainte. Ils devaient se dire, ouais, qu'est-ce que c'est cet homme? Et c'est lui qui a conduit, la Bible nous dit qu'il a pris Saul de Tarse, il a conduit vers les disciples, il leur a témoigné. Et ce qu'on voit chez cet homme, juste une parenthèse, c'est qu'il est courageux. Les autres, ils étaient dans la crainte, ils avaient peur. Ils avaient peur de Saul de Tarse. Mais lui, il prend, c'est un homme courageux et il le conduit. Et celui qui exhorte, ça c'est l'effet de la prière, ça c'est ce que produit la prière, elle produit l'exhortation, elle produit l'encouragement. Amen. Notre devise, notre vocation, c'est d'encourager les autres. Amen. C'est de faire du bien aux autres, c'est de fortifier les autres. Et j'insiste, et c'est de les tirer vers le haut. Il y a assez de choses qui nous tirent vers le bas, vous ne croyez pas ? Avec tout ce qui se passe, on a besoin... En tant que chrétien, allez, je ferme la parenthèse et on s'arrête maintenant sur le deuxième point où il est question de s'édifier. Et pour tout vous dire, je méditais ce matin sur ce verset. Il y a quelque chose qui m'est apparu que je n'avais pas vu au verset 11, toujours au verset 11, c'est quand il dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns des autres comme en réalité vous le faites ». Quand on regarde le texte, eh bien, on se rend compte que les Thessaloniciens, ils s'édifiaient déjà. Mais Paul insiste. Il dit, vous le faites, mais continuez à le faire. Et en regardant toujours le verset 11, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Il me semble que de ce verset, il y a une notion qui ressort, je vais en parler avant de m'arrêter sur édifiez-vous, c'est la notion d'unité. Et je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu dans les prières. Unité. Il me semble que votre pasteur l'a dit deux fois. Un même cœur. Et on va y venir. Mais c'est un petit peu ce que produit aussi la prière. La prière, elle produit en nous l'unité. Amen. Il dit, voilà, quand il dit « exhortez-vous réciproquement », c'est les uns envers les autres. Quand il dit « édifiez-vous les uns les autres », là aussi, il y a cette notion de d'unité. Et je me dis, mais c'est ça, Seigneur. Quand on prie, eh bien, il doit y avoir cette recherche d'unité. C'est important. Vous savez, s'il n'y a pas d'unité, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut dans l'Église. Si Dieu ne voit pas l'unité, ben c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais on a besoin d'être unis. Alors on est différents dans nos caractères. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait la diversité. On est différents dans le ministère, différents dans les caractères. Mais on doit chercher à tout prix l'unité. Quand Dieu voit l'unité, Dieu envoie la bénédiction. Amen. Je vais relever quelques textes qui nous parlent de l'unité. Quand même, l'exemple d'unité, c'est Jésus. Et Jésus dira dans Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ça, c'est les mathématiques de Dieu. 1 plus 1 égale combien normalement ? 2. Mais là, 1 plus 1 égale 1. Amen. C'est l'unité. C'est l'unité. Jésus dira dans Jean chapitre 17, verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Amen. Si le Christ est au milieu, il y aura l'unité. Et la prière m'amène à cette unité, m'amène à chercher cette unité. Dans Philippiens, Paul dit ceci, Philippiens 2:2, il dit « Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, ayez une unité, un même amour, une même âme et une même pensée. » Amen. Et quand je prie, c'est ce que doit produire la prière en moi. Elle produit l'unité. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Il y a un seul corps, il y a plusieurs membres, chacun à leur place. Il est question aussi de l'unité. Un corps avec les membres. Et nous sommes les membres du corps de Christ. On est d'accord? Ça, c'est l'unité. Ça, c'est l'unité. Je voudrais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 4, verset 2. Un texte, ça va? Éphésiens 4, 2, même pas 4, 2, verset 1er. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant, verset 4, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, par le lien de la paix, il y a un seul corps, etc., etc. Et vous savez que le chapitre 4, il y a aussi les ministères dons dans le chapitre 4. Et quand on lit la description des ministères dons, il y a aussi la notion de l'unité. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Je passe au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre et du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, voilà pourquoi il faut qu'il y ait l'unité. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. C'est plus que des vents. Je priais dans ce sens cet après-midi. Je me disais, mais Seigneur, des fois, c'est pas des vents qui passent. C'est des tempêtes, c'est des tsunamis, c'est des ouragans, hein, de fausses doctrines, et les gens courent. Mais s'il y a cette unité, d'abord, s'il y a le ministère donc qui est donné, et s'il y a l'unité, eh ben, on va échapper à il y en a qui, dès qu'ils passent un vent, même pas un vent, un courant d'air, hop, ils sont emportés. Et on a besoin de rester dans l'unité. Et il parle de l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, que Dieu soit béni. Amen. Dans Actes chapitre 4, verset 31, il est question là de Pierre et de Jean qui ont été relâchés, ils vont aller vers les leurs, ils vont se mettre à prier, vous avez toute la prière. Et ensuite, au verset 31, il est dit que le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous rempli du Saint-Esprit, et au verset 32, il est écrit ceci, la multitude, c'est ce qui a été souligné à deux reprises, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Et quand il y a la multitude, ça tremble. Amen. ça ne tremble pas de froid, mais c'est parce que les hommes étaient remplis du Saint-Esprit. Et il est dit qu'ils annonçaient, les disciples annonçaient la parole de Dieu avec assurance, et ils parlaient de la résurrection de Jésus. Amen. Et il faut qu'il y ait cette unité, mes frères et sœurs. Et c'est un petit peu ce que je... Ça ne m'était pas apparu comme ça, mais il y a cette notion d'unité. On va s'arrêter quelques instants sur l'édification. L'édification, c'est la définition d'édifier, c'est construire. Et quand je prie, je vais me construire. Déjà, je vais m'édifier. On va voir un petit peu les quelques éléments qui font que nous puissions nous édifier. Mais c'est la construction. Hein, prions pour la construction. La Bible nous compare à un édifice aussi. L'Église est comparée à un édifice. Pierre dit ceci. Allez, on va le lire. Dans la première épître de Pierre au chapitre 2, il dit ceci au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. C'est la construction pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est écrit, etc. Édifiez-vous pour former. On est des pierres, hein, des pierres vivantes qui se rajoutent à l'édifice. Amen. À la construction. Et je me dis, je ne sais pas si vous avez construit déjà ou un garage ou un cabanon ou alors une maison, mais ça met du temps pour construire, hein. Je connais des gens, je pense à ce témoignage, un chrétien à la Seyne-sur-Mer, il a construit sa maison du début jusqu'à la fin, des fondations, et tenez-vous bien avec son gendre, tout à la main. Alors, je sais pas combien de temps ils ont mis, peut-être 2-3 ans pour construire la maison. Ils ont même fait des volets. J'ai dit, mais vous avez tout fait. Ils ont tout fait. Du début jusqu'à la fin. Ça prend du temps pour construire, hein. Je me disais aussi, Seigneur, on est un édifice, mais on est toujours en construction, hein. Hein? La finition, c'est quand le Seigneur viendra nous prendre, hein. Quand il viendra pour, on est en construction. On est en construction, voilà. On rajoute, il rajoute, il rajoute, il modifie. Et dans une maison, il y a toujours à faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans une maison, il y a toujours à faire. La construction, l'édifice. Et on a besoin, hein, de s'édifier. Et c'est la prière qui va nous édifier, c'est la prière qui va nous amener à construire. Détruire, c'est facile, hein. Construire, on met du temps, hein. Mais détruire, c'est facile, hein. Hein, quand on fait des travaux à l'église, quand il s'agit de détruire, vous avez du monde qui vient. Il n'y a pas trop besoin d'être qualifié. Là. Vous leur donnez un marteau, une masse et tout le monde casse. Mais après, pour reconstruire, c'est un peu plus difficile. Hein. Je pensais juste à cet exemple d'homme qui, au lieu d'édifier, au lieu de construire, c'est dans Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14 avec les 12 espions. Quand Moïse les envoie, il revient au bout de 40 jours et sur 12 personnes, il y en a 10 qui ont détruit parce qu'ils ont détruit et 2 qui ont construit, 2 qui ont édifié. Et quand on lit je relisais encore le chapitre 13, mais au début du chapitre 13, Dieu dit, je vous donne le pays. Quand même, c'était le Seigneur qui donnait. Je vous donne le pays. Et quand ils sont arrivés, oh non, c'est un pays qui détruit les hommes. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles, etc. C'est des géants, etc. Ils ont découragé. Ils ont détruit. Et vous savez ce que ça leur a coûté dans le chapitre 14. Les gens se sont laissés influencer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Au lieu de construire, au lieu d'édifier, ils ont tourné en rond. Et c'est ce qui se passe quand, si on ne construit pas, si on n'édifie pas, si on ne se laisse pas édifier par le Seigneur, c'est ce qui peut se passer. Et des fois, on l'a certainement entendu, mais pasteur, j'ai comme l'impression de tourner en rond. Ben oui, peut-être qu'il faudrait passer un peu plus, hein, de temps devant le Seigneur et tu verras que... Et à cause de leur désobéissance, de cette mauvaise influence... Hein, au lieu de construire, ils ont influent quand même. 10 personnes ont suffi pour influencer le peuple et pour les éloigner et puis pour les amener à tourner en rond pendant 40 ans. Et certes, quand je relisais encore l'histoire, certes, malgré cela, le Seigneur a pourvu. Malgré cela, il leur a donné du pain à manger tous les jours. Malgré cela, quand ils voulaient un peu de viande, hein, nous, on ne mange pas tous les jours de la viande. Là, ils ont mangé de la viande, pas tous les jours, mais ils ont mangé de la viande. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est la patience du Seigneur. Nous sommes appelés à édifier, nous sommes appelés à construire. C'est Paul qui dit ceci au chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Amen. Qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. C'est important, ça, l'édification. On va lire un texte, si vous voulez, dans le livre des Actes des Apôtres, où l'apôtre Paul va prendre congé des Éphésiens. Et j'ai pris mon téléphone pour vous lire une autre version. On va la lire dans quelques instants. Mais d'abord, on va lire dans l'évangile dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20. On va lire, allez. Vous savez, au verset 28, il dira ceci: « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » Il prend congé des anciens d'Éphèse, des serviteurs de Dieu, « car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Déjà, il y avait toutes ces déviances, hein, toutes ces fausses doctrines. Veillez, donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'observer, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, voilà, c'est le verset 32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. » Et Paul leur dit: à celui qui peut édifier. Et j'ai regardé dans une autre version, et je trouvais que c'était bien pour l'église d'Aubagne. C'est dans la version Parole de vie, j'ai pris 2 versions. Parole de vie dit ceci, le même verset 32, hein, il dit ceci: « Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire, voyez, de construire votre communauté. » J'ai bien aimé cette phrase: « Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. » L'édification, elle construit la communauté. Nous sommes une communauté, l'Église est une communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Amen. Et j'ai regardé dans la version Crampon, 1923, c'est pas d'ailleurs. Et maintenant, je vous recommande, regardez ce que dit Crampon, le même verset. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut, c'est vraiment complémentaire les versions, à celui qui peut achever l'édifice et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alors, parole de vie dit construire la communauté, et là, Crampon dit achever l'édifice. En fait, c'est bien de construire, mais ce qu'il faut, c'est achever aussi. On construit et on achève la construction. Amen. Et bien sûr, on l'achève avec l'aide du Seigneur. Achever l'édifice et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que le Seigneur puisse commencer à construire et qu'il puisse achever. C'est important, hein. C'est Salomon qui dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Là, il faut construire et il faut aussi achever la construction. Que Dieu soit béni, hein. Que Dieu soit béni. Là, on va arriver presque à la fin. Ça, c'est toujours la parole des pasteurs. On arrive presque à la fin et puis on rajoute un petit peu. Les dons spirituels. C'est important parce que c'est là où le bât blesse. On fait partie de la Pentecôte, et je me rends compte, vous savez, je bouge pas mal, un petit peu comme Jean-Marc, je bouge pas mal, et puis je me rends compte que quand même, quand Paul dit que de rechercher en abondance les dons spirituels, et je crois qu'il le faut, parce que des fois, c'est un petit peu maigre, hein, excusez-moi l'expression. Et là, on a quand même, et c'est toujours pour l'édification de l'Église. On est toujours dans l'édification. L'exercice des dons spirituels, c'est pas pour dire, ça y est, j'ai un don, j'ai la médaille. Non, non, c'est pour édifier l'Église. C'est pour construire l'Église. Et regardez ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14. J'ai relevé trois versets. On va les souligner. D'abord, il dit ceci au verset 12. Allez, même verset 10, allez, aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'y a aucune qui soit sans signification. Verset 12, de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Et si l'apôtre souligne quand même de chercher à en posséder abondamment, c'est que quelque part, ça peut manquer. Rien n'est mis au hasard dans la parole de Dieu. Et il dit pour l'édification, c'est pour la construction de l'Église. Et moi, je vous encourage, pour vous qui peut-être exercez les dons ou que vous voulez exercer les dons, demandez au Seigneur. C'est lui qui va choisir ses instruments et qui va vous utiliser pour les dons spirituels. Cherchez à en posséder abondamment, abondamment. Et regardez ce qu'il dit concernant le parler en langue. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, et qu'est-ce qu'il fait? Il les édifie. Ça, c'est la prophétie. Hein, les édifie, on retrouve l'exhortation, ce qu'on avait vu la première fois, et les console. Amen. Les dons spirituels sont là pour édifier, pour exhorter, pour encourager, et pour consoler. La prophétie, c'est le don par excellence, hein. Rechercher les dons spirituels et aspirer surtout à celui de la prophétie. Moi, je vous encourage. Et la prophétie, elle n'est pas là pour faire peur. Je le dis souvent, ça ne sortira pas d'ici, d'accord? Ça ne sortira pas d'ici. Mais j'avais... terrible ça, la prophétie. J'avais une sœur, hein, c'est un témoignage qui m'est resté gravé là. À chaque fois qu'on était invité, un dimanche, bon, on confiait le culte à un frère ou à un stagiaire, et puis on demandait, quand le culte était fini, le dimanche à midi, là où on était peut-être invité, on allait et on demandait au frère si ça s'était bien passé. Et à chaque fois, dites, à chaque fois que je partais un dimanche, à chaque fois, le frère disait, mais il y a eu encore une prophétie de la même personne, je ne dirais pas si c'est une femme ou un homme, et de la même personne, et cette prophétie, elle faisait peur à l'Église, etc. Non, la prophétie, elle n'est pas là pour faire peur, elle est là pour édifier, elle est là pour exhorter, elle est là pour consoler. Amen. Et c'était terrible. Mais à chaque fois, c'est... elle profitait, quoi. La personne profitait. Hein, voilà, ouais, le Seigneur, voilà, c'était le coup près, c'était les coups de bâton. Et c'est pas ça, la prophétie. La prophétie, elle est là pour construire, elle est là pour encourager, et elle est là pour consoler. Et regardez ce qu'il est dit ensuite du parler en langue. Celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. C'est-à-dire, il se construit. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul dit « Mais je parle en langue plus que vous tous. » Il se construisait. Et quand il arrivait dans l'église, il disait « Moi, je parle peu dans l'église en langue, mais le peu que je vais apporter dans ma langue maternelle, ça va faire du bien. » Et quand on est édifié en amont, quand on a passé du temps à parler en langue et à s'édifier, alors quand on ouvre la bouche, vous avez remarqué des fois, mais ça c'est dans toutes les assemblées, des fois, bon, il y a la prière, mais puis il y a une prière qui sort comme ça du lot et qui va toucher le cœur de l'Église et qui pendant un temps va embraser l'Église, pendant un temps va faire du bien. Pourquoi? Parce que certainement que la personne a été inspirée, certainement qu'elle avait passé du temps dans la prière et ça va donner un coup de fouet à l'Église parce que hein, alors, il faut prier, hein, mais quand il y a cette prière-là, vous savez, prière fervente qui a été dit tout à l'heure, fervente, elle va faire du bien et elle va édifier. Amen. Et on a besoin. Hein, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et quand Paul ouvrait la bouche, il devait dire que quelques mots, mais alors, mes amis, c'était plus que pesé, bam, ça allait droit au but et ça touchait les cœurs. Gloire à Dieu. Important de. Et verset 5 aussi. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Là, il met en évidence la prophétie et il met en évidence le parler en langue, et c'est toujours pour l'édification. Je regarde l'heure. C'est bon? Oui? 8h15, ça va? Je disais encore là, ce week-end, j'ai l'impression qu'au plus je vieillis, au plus je parle. Ça, c'est l'âge, hein, excusez-nous. Hein. Allez, je vais passer sur ce texte-là. Hein. On va terminer avec la conclusion dans Éphésiens chapitre 4, verset 16. Éphésiens 4, 16, l'apôtre Paul dit ceci. Et je voulais vous le lire aussi dans une autre version. Et on va terminer par la prière. Éphésiens 4, 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacun de ses parties et s'édifie. Et s'édifie lui-même dans l'amour ou dans la charité. Amen. Et ça, c'est la base aussi. Hein. Pas partir sur cette pensée-là, mais s'il n'y a pas la charité, s'il n'y a pas l'amour. Hein. Paul dit à l'église d'Éphèse, mais tu as de la persévérance, tu as sondé ceux qui se disent apôtres, tu les as trouvés menteurs, etc. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu, c'est que tu as abandonné ton premier amour. S'édifier soi-même dans la charité, s'édifier soi-même dans l'amour. Vous permettez que je vous le lise dans la parole vivante. Alors, ça me prend 30 secondes pour chercher. Et là, j'avais préparé des autres versets. C'est rapide, hein. Voilà, ne s'inquiétez pas. Éphésiens, c'est formidable, hein. Il y a tout là. Hein. C'est vrai, hein. Ça nous fait gagner du temps. Éphésiens, chapitre 4. Et verset 16, il est dans la version Parole de vie. Voilà. Et c'est encore un peu plus explicite. Parole de vie. Voilà, le même verset. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. C'est différent, hein? Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Amen. Hein, il se construit lui-même dans l'amour. Et je le relis, c'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Et nous sommes les membres du corps. Hein. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, on a tous du boulot, hein. Le corps grandit et se construit lui-même, s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. Que Dieu soit béni. Le prochain mardi, je sais pas quand est-ce que ça sera le prochain mardi, eh bien, on verra la suite. D'accord? Si c'est enregistré, vous relisez, et puis on s'arrêtera sur la considération. On va analyser ensemble le verset 12 et le verset 13. Considération. Là, c'est un peu spécifique, c'est un peu dirigé vers les serviteurs de Dieu, mais on peut tirer un enseignement même quand il s'agit des serviteurs de Dieu. Parce que avant d'être serviteur de Dieu, on est chrétien. Et oui, ça, il faut pas l'oublier. Hein. On est chrétien et on veut servir le Seigneur de tout notre cœur. Gloire à Dieu. On va. Tu veux faire une annonce, non? On termine par la prière, hein? On va terminer. Te bénissons, Seigneur, te remercions pour tous tes bienfaits. Oui, Seigneur, ma prière vraiment, c'est que tu viennes d'abord m'édifier dans la charité, dans l'amour. Tu as dit que parce qu'une iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Viens faire de nous des hommes édifiés dans la charité, des hommes mous.